m'étonnes, ça sent les vacances. Ah, à plein nez, à plein nez.
Tu m'as vu, regarde, je suis en tongue.
Ah non, pas encore. C'était Dancehall Club, people, well. Bisous, les rude boys, les rude girls, tous mes petits chats. Passez un bon été, hein. On souhaite plein de bonnes choses, essayer de voir la vie du bon côté. Toujours. Ou comme on dit chez nous, hein, keep the face. Aïe. Lucille, bon été. Clem, Lourdes, bon été. Bi. L'apéro, bon été. Les massifs, les passifs. On se retrouve à la rentrée en septembre. Normalement. 102, mais oui, promis. On reviendra avec encore plus d'émissions, encore plus d'invités, encore plus de sons, et puis aussi peut-être des concerts, tout ça en prévision. Hein. On vous promet, on va essayer de se bouger le derrière pour organiser de bonnes soirées et des bons concerts. Ouais. Tant. On vous remercie d'avoir écouté. On espère que cette émission vous aura plu. On espère toute l'année ça vous aura plu. Yes, big up au Rasputin qui sera demain valseuse. Big up au Bomp du côté de la rue Croix-Paquet. Une petite soirée rhythm and blues, années 50, tout ça comme on les aime bien ce soir. Au Bomp. Croix-Paquet style. C'est toujours Croix-Rousse. Bisous tout le monde. Bim!
Bonsoir et bienvenue au Radio Canu du vendredi, il est 7h04 et alors aujourd'hui on va d'abord vous passer un reportage qui a été fait à Barcelone il y a 15 jours sur la Villa Ocupada Canvies qui du coup a réussi à gagner sa lutte pour récupérer un squat qui avait été viré par la mairie. Après on va revenir sur les luttes des avocats pour l'aide juridictionnelle. Puis on aura des intermittents du spectacle qui nous parleront de leur lutte dont vous avez sûrement déjà entendu parler autour de la réforme du statut de l'intermittent. Après on reviendra sur ce qui se passe à Calais en ce moment et puis sur les grèves des mineurs en Afrique du Sud.
Alors on lance le reportage.
Se defiende el barrio. vende, no se defiende, el barrio no se vende, el barrio se defiende, el barrio pa' su gente, pero el barrio está tomando...
Le CSA de Canvies, un quartier sur le pied de guerre. Le 26 mai 2014, Casa Ocupata de Canvies, le centre social autogéré de Canvies qui se trouve à Barcelone, a été expulsé. Les Casas Ocupatas, centres sociaux autogérés et culturels, sont une tradition forte en Catalogne et dans le reste de l'Espagne. Ce sont des endroits squattés par les Ocupas, un mouvement beaucoup plus large qui lutte contre la propriété privée et pour la réappropriation du quartier par ses habitants. Déjà en 2006, c'est la Macabla, une des plus grandes Casas Ocupadas, qui a été expulsée. Et puis en février 2014, la Carboneria. Aujourd'hui, le Canvies et le Can Baltio sont les deux gros casas ocupatas qui restent à Barcelone. Le Canvies a été expulsé le 26 mai 2014 et aujourd'hui, grâce à la mobilisation collective, a été récupéré par les habitants. Retour sur une lutte de squat.
No se aceptan críticas, no hay diálogo con quien quiere destruir el barrio, que no seremos cívicas, esto no se aceptan críticas, no hay diálogo con quien quiere destruir el barrio.
Bien, el movimiento ocupa principalmente.
Le mouvement Ocupa est principalement un mouvement privada, qui lutte contre la propriété privée,
de los espacios, ¿no?
Mais aussi la propriété publique.
Pour la,
et elle fait le pari, selon mon avis, de la propriété collective, de la gestion commune. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y avait un mouvement de ce genre à Barcelone. Et avec plusieurs points de vue. Au début, c'était difficile parce que les gens investissaient peu les espaces, à cause aussi des préjugés. De la société. Les gens n'étaient pas habitués à prendre les espaces. Chaque année, ça a été de plus en plus légitimé, parce que, surtout à cause du fait qu'on se rend compte qu'on se fout de plus en plus de nous. Les gens se rendent compte qu'il y a des endroits abandonnés, qu'on ne peut rien faire, et qu'en même temps, ils sont expulsés de leur logement. Dans cette situation, il apparaît de plus en plus clair que les gens ont le droit de se réapproprier les espaces vides. Encore plus si c'est la propriété de grandes banques ou de grandes entreprises. Également, le dénominateur commun, ce serait la lutte anticapitaliste pour un changement de gestion et de modèle au niveau des espaces. Et puis aussi, selon les points de vue, on voit que l'occupation, c'est aussi un outil. On ne se contente pas d'occuper et voilà. C'est aussi un outil qui permet de visibiliser un peu le changement d'usage et de gestion des espaces. Et c'est aussi un moyen à travers lequel on peut travailler sur d'autres points, atteindre d'autres objectifs. C'est pas seulement une fin en soi, c'est aussi un moyen.
Violència són els barris, guetos, segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament. No, violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumària.
Bueno, gràcies per haver vingut.
Bonjour, merci d'être venu. La conférence de presse d'aujourd'hui est surtout consacrée au lancement de la campagne pour récupérer les fonds de la reconstruction de Canvies et également, comme nous l'expliquerons, pour appuyer les entreprises qui ont été solidaires pendant toutes ces journées de lutte. La première chose, pour situer un peu le contexte, c'est que le mois de mai et juin d'il y a 3 ans ont été décisifs et que d'une certaine manière sont connectés avec ce qui vient de se passer dans le quartier. Il est important de rappeler qu'au mois de mai d'il y a 3 ans, on a coupé la place Catalogne et qu'il y a eu une tentative d'expulsion violente qui finalement a été, la réponse a été apportée par la mobilisation qui a consisté à réoccuper la place. C'est important de remarquer que les processus qui ont lieu pendant ces mois de mai et juin coïncident un peu avec cette expérience. Il semble que chez l'administration, on n'arrive pas à apprendre que la solution, lorsque la population s'auto-organise, ce n'est pas la répression. À l'heure actuelle, nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur d'un mouvement qui ressemble à ce qui se fait à Cambatlo et qui consiste en la réhabilitation d'un espace communautaire pour le quartier. Pour cela, depuis Cambias et Cambatlo, il y a un lien très fort et un support mutuel avec vous.
Cette campagne de dons a également été centrale dans la stratégie de réoccupation. Celle-ci n'a été acceptée par la mairie qu'au cours des dernières semaines. Le 5 juin dernier, l'accord proposé par la mairie, qui consistait à rester au plus 2 ans au sein du centre social, a été refusé par les collectifs. Finalement, les occupas peuvent occuper les lieux pour une durée provisoire de 2 ans, à voir ce qui se passera après. Le maire de Barcelone, Javier Trias, profite ainsi d'un vide juridique pour cette proposition bancale et il fait face à de très fortes critiques du PP, Partido Popular, de droite, bien sûr. Ceux-ci, les Ocupas, ont d'ailleurs déplacé une grande partie des gravats avant que la mairie ne propose, sous la pression, d'en déblayer le reste avec des bulldozers.
Pour le moment, il faut commenter que le cas qui nous occupe, celui du centre social de Cambias, ne peut pas s'expliquer sans prendre en compte le quartier dans lequel il commence. Donc, par exemple, quand il a été occupé en 1997, à ce moment-là, il y avait une autre maison occupée, la Hamsa, qui était du même district et qui était occupée depuis quelques années. Donc, à partir de cette maison, un groupe de jeunes est allé chercher un autre lieu pour faire des activités sociales, culturelles et politiques, et aussi un lieu où il y a plus d'enfants qui permettent de s'enraciner dans le quartier. C'est à partir de là que l'on a occupé le centre social autogéré de Cambias. Et depuis ce moment, on a énormément travaillé sur le plan de la collaboration de quartier, ce qui a permis l'intégration de beaucoup de gens qui peut-être, dans un premier temps, ne voulaient pas participer à l'espace par méconnaissance ou autre chose, mais finalement, cela a relié tellement de jeunes, d'un côté et de l'autre, qui se sont mis en relation avec d'autres personnes qu'ils ne connaissaient pas, et petit à petit, ils ont rempli les préjugés autour de l'occupation. Donc, au niveau de la répression, c'est vrai qu'à Barcelone, il y a eu beaucoup de répression autour des maisons occupées. Autant dans les années 90, il y avait plus de permissivité, mais ces derniers temps, on voit se refléter la volonté politique de la municipalité d'en finir avec les espaces autogérés, notamment ceux qui n'ont aucun lien avec la mairie. Par exemple, il y a peu, ils ont expulsé la Carboneria, qui était très enracinée dans la vie du quartier, vers le Poblasec. Alors, quand cela est arrivé ici, il est vrai que l'ampleur de la révolte après l'expulsion s'explique par toutes les personnes qui sont passées dans ce lieu, toutes les générations de participants, pour toutes les relations qui s'étaient créées au niveau du quartier, mais aussi de Barcelone et même de plus loin. Et cela faisait surtout longtemps, c'était l'une des rares qui existait depuis si longtemps. Et puis il y a aussi la question de la situation actuelle, ça fait plusieurs années que la situation est honteuse du point de vue des politiques urbanistiques comme sociales de la part de la municipalité et de l'État. Avec de plus en plus la crise actuelle, ça fait quelques années que c'est de pire en pire. Et donc, le fait qu'ils soient arrivés à Cambi, à ce qu'ils aient commencé à le détruire le jour même devant tout le monde, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il y a maintenant une situation calme, mais très tendue, disons, dans le quartier, dans toute la ville. Et cela a fait un peu sortir les gens dans la rue et lutter pour leur
hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament. No, violència és actuar en nom d'un ésser superior.
Fermeture de Saint-Louis, le 20 mai 2014, l'expulsion des Ocupas et la destruction d'une partie du bâtiment a donné lieu à un cycle de mobilisation et de répression. Les Ocupas ont dû réagir sur deux fronts, le front de la répression et la reconstruction du bâtiment. Sur le front de la répression, 30 personnes ont été arrêtées. La répression est d'autant plus violente que les pouvoirs publics craignent une contagion à toute l'Espagne. D'ailleurs, cette crainte s'est trouvée confirmée puisque de nombreuses villes ont été secouées par des mobilisations, ce que d'aucuns ont qualifié d'effet Canvix. Sur les sites des centres sociaux, les militants se déclarent comme étant sur le pied de guerre pour défendre ce bâtiment construit en 1879 et collectivisé par la CNT dans la guerre civile espagnole. Parmi les personnes arrêtées, Sergi Rubio est accusé d'actes de sabotage, de vandalisme et de barbarie. Malgré la mobilisation de ses compagnons castellares, ces personnes qui font des pyramides humaines célèbres en Catalogne, de sa famille et de
si cante mai moriré. Quan acaba la festa ens quedem asseguts als portals. Cada alegria cansada al sol del demà. I sentim que la vida és com un vaixell que se'n va cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians. Perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar, que la vida és bona, que hi ha alegria. Un pot a l'aire, un brindis pel demà. Perquè avui desafiem la por. Si cantem mai morirem.
voilà, c'était le reportage à Barcelone sur Canvis. Alors maintenant, nous avons une invitée, Tatiana, qui fait partie du syndicat des avocats de France. Bonjour Tatiana.
Bonjour.
Alors tu es ici parce qu'il y a une grosse mobilisation autour de l'aide juridictionnelle. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer en deux mots ce que c'est l'aide juridictionnelle ?
Oui, alors l'aide juridictionnelle, en fait, c'est un système qui a été mis en place au début des années 90, qui permet aux personnes qui ont des revenus inférieurs à un certain seuil, actuellement c'est 926 euros de mémoire, de bénéficier d'un accès gratuit à la justice, c'est-à-dire que les honoraires des avocats, des huissiers, de tous les intervenants du droit qui doivent passer, sont pris en charge par l'État. Sachant que la rémunération, en fait, les honoraires, quand je dis ça, c'est pas exact, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a une indemnisation qui est donnée, enfin qui est versée par l'État à l'auxiliaire de justice, donc l'avocat ou l'huissier par exemple, qui souhaite intervenir sur ce dossier-là.
Ok. Et du coup, il y a des mobilisations depuis octobre. Tu peux nous expliquer un peu ce que ça a été, ces mobilisations ?
Oui. Alors en fait, juste parce que c'est vrai que ça fait le système de la juridictionnelle, il a pas du tout bougé depuis 2007, notamment la rémunération des avocats, parce que c'est ceux qu'on représente, enfin dont je fais partie. Elle a pas du tout bougé depuis 2007. Et avec l'arrivée en 2012 du gouvernement socialiste, il avait été question justement qu'il y ait une réforme qui soit mise en place, parce que le système est vraiment à bout de souffle dans la mesure où l'indemnisation elle est très faible. En rapport au travail qu'il fait, ce qui fait que les gens qui travaillent les juridictionnels, qui font beaucoup d'aides juridictionnelles, travaillent à perte en fait. C'est-à-dire que c'est soit des dossiers qu'on fait en plus du reste, parce que soit c'est effectivement des gens qui s'épuisent ou qui bossent à perte. Du coup, il y a eu une première mobilisation qui a lieu au mois d'octobre. À l'époque, c'était aussi pour demander. Parce qu'en fait, ils avaient, pour essayer de trouver un mode de financement de l'aide juridictionnelle, ils avaient mis en place une taxe de 35 euros pour toutes les personnes qui voulaient faire un recours devant le tribunal, quelle qu'elle soit. Et nous, ça nous paraissait un frein à l'accès à la justice, puisque ça voulait dire qu'en plus du reste, il fallait payer 35 euros. Et donc, il y a une première mobilisation pour ça au mois d'octobre, qui s'est traduite par des rassemblements, des manifestations. Alors, on a obtenu gain de cause sur la suppression des 35 euros, et à l'époque, le gouvernement et Taubira en particulier avait dit que c'était aussi l'amorce d'une réflexion sur la réforme de l'aide juridictionnelle. Et fin mai, aucune proposition n'avait été faite. Un rapport parlementaire était sorti qui a jamais été diffusé. Et donc on était, il a été question de se dire, il faut qu'on mobilise maintenant parce que les arbitrages budgétaires qui se font en ce moment, et que, du coup pour 2015, il faudrait vraiment que quelque chose se passe. Du coup, il y a une première journée de mobilisation le 5 juin à Lyon qui s'est traduite par pas grand-chose, parce que c'était le début aussi. Et ensuite, il y a une grosse journée la semaine dernière le 26 juin. Et la prochaine a lieu le 7 juillet. Sachant que l'idée c'est d'obtenir la refonte du système et surtout de trouver un autre moyen de financement qui soit pas forcément le budget de l'État, parce que on a conscience que c'est pas forcément là qui a le plus d'argent, mais de trouver un système de financement qui soit un système solidaire qui permette d'augmenter le budget de l'aide juridictionnelle, parce qu'il y a aussi des besoins qui sont pas couverts en fait, des gens qui ont pas accès à un avocat alors même qu'ils pourraient en avoir besoin.
Oui, du coup, le fait que les avocats soient moins rémunérés en prenant les dossiers des personnes qui ont l'aide juridictionnelle, ça pousse les avocats à plus avoir envie, du coup, de travailler avec des personnes qui ont ces droits-là.
C'est ça, ça peut être le risque à terme. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'avec l'augmentation, le rapport entre la rémunération qui est toujours la même, il y a un risque à terme que soit ce soit pas fait, soit mal fait, parce que des conditions de travail trop difficiles et du coup que ce soit pas fait. Et puis il y a toujours une poignée qui le fera bien et qui le fera, mais qui de fait reste pas si longtemps dans la profession parce qu'il s'épuise aussi avec ça.
Et du coup, là, dans vos mobilisations maintenant, c'est quoi vos revendications encore ?
Alors, la revendication, c'est d'abord d'obtenir une vraie réforme et du coup une réflexion sur le système. Et puis, on voudrait qu'il y ait un nouveau fonds qui permette d'avoir plus d'argent pour l'aide juridictionnelle. Le point de discussion actuellement, c'est qu'en fait, a priori, ils ont fait une proposition qui serait de taxer le chiffre d'affaires des avocats, ce qui fait râler les avocats, mais y compris ceux qui font l'aide juridictionnelle, dans la mesure où ça fait que du coup on considère que du coup c'est un problème que de profession par rapport à sa rémunération, alors que pour nous la question c'est vraiment la question de qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, c'est les justiciables, et que du coup bien sûr qu'on est prêt à contribuer, enfin moi je sais que je suis prête à contribuer à un fonds d'aide juridictionnelle, mais pour moi c'est une question beaucoup plus large de société, de qu'est-ce qu'on veut comme accès aux droits pour les personnes, donc c'est aussi pour ça. Donc après, au sein de la profession, on n'a probablement pas les mêmes points de vue, parce qu'il faut bien dire ce qu'est être avocat, c'est plein de profils différents et plein de rémunérations différentes. Il y a des niveaux de rémunération très différents. Enfin, je pense qu'on est une profession très hétérogène. Mais du coup, en tout cas, je sais qu'au niveau du syndicat des avocats de France, c'est ça qu'on... Nous, l'idée, c'est que les justiciables puissent avoir accès à la justice et également qu'on puisse élargir le champ des interventions aussi. Parce que notamment, tout ce qui est procédure... Enfin, alors après, c'est aller loin. Enfin, c'est pas du tout le... C'est pas du tout ce qui est envisagé aujourd'hui, mais moi, il me semble que ce serait même important qu'on puisse prendre en charge toutes les phases avant de vendre le tribunal, parce qu'il y a toute une phase de conseil. Je pense en droit des étrangers, parce que c'est facile à, voilà, toute la phase de conseil, d'accompagnement pour déposer un titre de séjour, c'est une phase qui est hyper importante et pour le coup, qui peut pas être prise en charge par les directionnels dans le système tel qu'il est actuellement. Et ça, ce serait vraiment important, parce qu'en plus, ça éviterait parfois, ça pourrait, je sais pas dans quelle proportion, mais désengorger une partie des tribunaux, parce qu'il y a plein des fois où on arrive, les choses, elles sont déjà faites et on rattrape comme on peut ou pas le système, alors qu'il y a bien, moi, je vois bien que les dossiers, pour parler du droit d'étranger, mais il y a bien d'autres contentieux où le fait d'être en amont fait que le résultat il est là. Enfin, alors ça dépend aussi de la situation de la personne. Et je pense que ce soit dans plein de domaines de la vie de tous les jours, ça pourrait être vraiment utile.
Et en plus, là, je disais sur Rue 89, il y a un article là-dessus sur l'aide juridictionnelle, et il disait qu'en fait, les personnes qui étaient, par exemple, les personnes menacées d'expulsion de leur logement, en fait, il y a 40% des personnes qui ne se présentent pas à l'heure de l'audience, quoi. Et du coup, enfin, elles sont ni représentées ni présentes. Et du coup, enfin, c'est ça, c'est des personnes qui pourraient améliorer leur situation, et finalement, ça ne se passe pas. Parce que, alors, est-ce que. Il y a des personnes qui pourraient avoir l'aide juridictionnelle et qui ne trouvent pas d'avocat, tu penses ?
Non, je ne pense pas aujourd'hui. En tout cas, pas sur une ville comme Lyon, par exemple, parce qu'on est très nombreux. On est presque 2900 avocats. Donc, il y a toujours des gens qui acceptent de faire l'aide juridictionnelle. Et du coup, c'est encore suffisamment large. Par contre, et ça, c'est encore une autre discussion, mais c'est plus largement sur l'accès au droit. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'ils peuvent être accompagnés d'un avocat, que ça peut leur coûter. Alors, l'aide juridictionnelle, elle peut être totale. Parfois, elle peut être partielle aussi. Ça veut dire que ça peut prendre une partie en charge des frais. Et que du coup, il y a des choses qui sont possibles à ce niveau-là. Donc c'est plutôt une autre question qui est aussi d'être informé des droits qu'on a et du fait d'être accompagné. Et l'utilité, alors sans du tout vouloir prêcher pour ma chapelle à tout prix, l'utilité d'être accompagné par un professionnel du droit et en l'occurrence un avocat, puisqu'effectivement les procédures, elles sont... Enfin, voilà, c'est notre métier, quoi. Du coup, c'est plus simple aussi. Et bien souvent, les gens, ils ont peur. Alors, je dis pas, hein, y a des je ne vais pas défendre l'intégralité des avocats, mais bien souvent les gens ils ont l'imaginaire que ça va leur coûter très cher et puis que c'est pas forcément utile et qu'ils se débrouillent tout seuls. Et c'est vrai que du coup il y a aussi un autre travail là-dessus, mais c'est finalement moins lié au mode de rémunération, parce que pour le coup aujourd'hui je pense pas qu'il y a des gens qui trouvent pas du tout d'avocat à la JICO.
Et là, lors de la mobilisation du 26 juin, ça c'était à Paris ?
C'était partout en France et notamment à Lyon.
Il y a eu beaucoup de monde ?
Oui et non. Enfin, proportionnellement, je pense qu'on a dû être 200 à un moment ou à un autre, ce qui est pas énorme par rapport à l'ensemble du barreau lyonnais. Après, c'était déjà une jolie mobilisation par rapport à ce qu'on a pu voir, parce que c'est une profession qui est quand même très, très individualiste, et qui, du coup, sur des mouvements comme ça, c'est pour le coup un gros mouvement à notre échelle. Enfin, on n'est pas, et qui a eu des vrais effets. Enfin, c'est-à-dire que l'idée, c'est de vraiment faire des journées où on essaye de bloquer le fonctionnement de la justice, simplement en demandant des renvois. C'est-à-dire qu'on touche pas à tout ce qui est contentieux de la liberté, dans le sens où les gens qui risquent d'être enfermés ou quoi, évidemment, ça, on assure nos missions, parce que ça nous paraît essentiel. Par contre, on demande pour les autres dossiers que ce soit renvoyé. Et parfois, il a fallu obtenir un peu de force de certaines juridictions, mais on a fini par l'obtenir.
Ok. Et du coup, par exemple, si nous, on veut faire quelque chose, enfin, voilà, même si on n'est pas avocat, pour justement qu'il n'y ait pas une justice encore plus à deux vitesses, là, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose ?
Alors, lundi, il y a une nouvelle journée de mobilisation. L'idée, le principe, c'est plutôt une manifestation nationale à Paris. Mais à Lyon, on organise un rassemblement devant le palais de justice, qui est à l'appel des avocats. Mais le syndicat des avocats de France a aussi proposé aux associations qui travaillent avec des usagers et des justiciables de se joindre à nous. Et du coup, il peut y avoir d'autres gens qui viennent aussi, puisque, encore une fois, en tout cas pour ce qui est du syndicat des avocats de France, l'idée c'est pas tant d'être sur une lutte corpo que d'être sur quelque chose d'une réflexion plus générale sur l'accès à la justice.
Ok, bah merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, c'est bon, merci.
Ok, bah alors on va essayer d'être là au rassemblement. Merci.
Puisqu'on submerge de sons et d'images qui disent que l'on vit ne paix se forge que dans les cages d'escalier que gentiment on nous héberge. Dès qu'on a fait de nos paliers de vrais coups de gorge, tu es sur tes gardes chaque fois que t'abordes ce que l'on désigne quand le débat déborde comme des hordes de barbares en affront ou à barbe. Tu flippes de croiser le soir quand tu t'attardes. Et c'est par les urnes que tu informes que ça manque de burnes chez les uniformes et que les vies germent dans nos épidermes. Et tu sais le tapage nocturne quand les gens dorment. Tu brailles, tu clames qu'on y mette un terme. Tu réclames que ceux qui te gouvernent deviennent plus fermes. Que si tous boxons sous ton balcon s'acharnent, c'est sûr tu feras un carton avec ton arme.
Qui sont-ils?
Tu verbalises des gosses, tu terrorises des vieux, tu utilises la force. Brassard de police et drapeau sur le torse. Tu fracasses tes faces en légitime défense. Et rappelle qu'ici quand même on est en France. Et que toi tu penses et fais des sacrifices. C'est pas pour l'avoir dans l'os ou l'orifice. Donc vos papiers s'il vous plaît messieurs, ôtez les mains de vos poches et puis baissez les yeux. Et que personne ne bronche, tout ira pour le mieux. C'est bon, remballez vos tronches et quittez les lieux. Déjà un an de service et à ton palmarès. Des sales manouches, des sales bicots et négresses. Les collègues t'applaudissent et une juge te caresse. Et pour fêter ça, tu tires en état d'ivresse.
Qui sont-ils?
Arrête le trafic et la contrebande. Beaucoup plus de flics, de prison et d'amendes. Selon le dernier sondage de ta commande. Tu scandes, tu gueules, tu fais de grandes tirades sur la menace de ces gangs et puis du djihad. Parle d'escalade, de violence et de balade. Avec brigade et télé sur nos esplanades. Promets aux Français malades ton aide. Leur dis que la meilleure méthode c'est la plus raide. Afin de terminer pour une fois dans des poudres avec ces voyous qui te vendent flingue et poudre. Qu'ils viennent sur les listes électorales et tu rétabliras l'ordre et puis la morale. Une politique virile car l'immigré s'impose. Voilà ce que ton programme présidentiel propose.
Qui sont-ils?
Voilà, c'était Calais. Qui sont-ils?
Et maintenant, retour du coup sur Calais, où depuis deux jours, il y a une énorme vague d'expulsions, ou en tout cas d'arrestations momentanées de migrants. Alors, pour revenir un peu sur la situation, mercredi 2 juillet, trois squats ouverts par le collectif Salut au Toit et le lieu de distribution des repas occupés depuis un mois par des exilés ont été évacués. Alors, les militants et les journalistes, ils ont été éloignés de manière à ce qu'ils ne puissent pas voir ce qui se passait à l'intérieur du lieu de distribution. Et c'est plus de 600 copains et copines qui ont été embarqués dans des bus. C'était vraiment une sorte d'énorme rafle, comme on en a quand même rarement vu à Calais, même s'il y en a à peu près tous les jours. Et les dernières nouvelles qu'on a, elles datent d'hier. Et du coup, hier, au fur et à mesure que les exilés reviennent à Calais et que les associations reprennent contact avec eux, on a un peu des nouveaux éléments sur la situation. Il est par contre encore très difficile d'évaluer le nombre de personnes qui sont concernées. Les uns et les autres sont en effet dispersés dans Calais et aux alentours, voire plus largement dans la région. Il y a une partie des exilés qui ont bien été amenés en bus du lieu de distribution des repas dans différentes villes, et ce jusqu'à Paris, où les policiers leur ont simplement dit de descendre. À aucun moment ils n'ont été dans un commissariat, et donc a priori aucun document ne leur a été remis en lien avec la privation de liberté qui leur a été infligée. D'autres personnes ont été emmenées dans des commissariats à Coquel. Coquel, c'est vraiment juste à côté de Calais. À Lille, à Dunkerque, à Saint-Omer, à Boulogne. Et ont été libérées mercredi en fin de journée. Certains sont porteurs d'un document en trois feuillets avec des cases à cocher correspondant à différentes questions qui tient probablement lieu d'examen de la situation individuelle. Donc il y a eu des problèmes de traduction qui ont été rencontrés, notamment par exemple des Érythréens qui ont été confrontés à un traducteur en arabe et des entraves à la demande d'asile. Il y a par exemple quelqu'un qui a déclaré au commissariat qu'il souhaitait demander l'asile et à qui les policiers ont répondu que c'était impossible parce qu'il devait être envoyé dans son pays. Il y a vraiment plein de personnes qui ont disparu. Des mineurs ont réapparu, mais pas tous. Certaines personnes qui ont été embarquées mercredi sont très jeunes, environ une douzaine d'années. Et comme les autorités ne se soucient d'eux que pour les arrêter, il faudra rapidement que nous réussissions à savoir où ils sont et à renouer le contact avec eux. Quelques femmes aussi ont réapparu, mais là encore, on ne sait pas où sont les autres. Certaines étaient enceintes et proches de l'accouchement. D'autres avaient des enfants de moins de 6 ans. Et on aimerait aussi bien avoir de leurs nouvelles. Il est en fait malheureusement beaucoup plus facile de compter les gens quand ils ont été amenés en centre de rétention. Et donc pour les centres de rétention, on a les chiffres. Il y a 206 personnes qui ont été envoyées en centre de rétention, soit 37 au centre de rétention de Lille-Lesquin, 20 à Rennes, 20 à Metz, 30 à Oiselle, Oiselle c'est près de Rouen, 17 à Palaiseau, 20 à Plaisir, 62 à Ménil-Amelot. Et du coup là, ces trois derniers centres, ils se trouvent en région parisienne. On a des premiers retours sur les décisions d'expulsion vers l'Afghanistan ou vers le Soudan. Donc ce sont des personnes qui doivent faire appel devant le tribunal administratif dans les 48 heures qui suivent leur arrivée au centre de rétention. Et on espère que ces informations qui avaient été données avant à Calais ont circulé et que les personnes ont eu les bons réflexes et donc ont pu essayer de faire appel devant le tribunal administratif. Il faut savoir que bon, bah là, tous les renforts de policiers et de gendarmes mobiles qui avaient été envoyés pour la rafle de mercredi ont quitté Calais hier, jeudi. Et il semble se confirmer que les policiers avaient pour consigne d'éloigner les militants et les journalistes au besoin par la violence, d'où l'usage important et immédiat de gaz lacrymo et des arrestations à fin d'intimidation. Il y a un gros appel des militants de Calais qui sont sur place, des militants nos borders et des personnes qui sont en soutien pour avoir du monde sur place, pour avoir aussi du matériel si des gens ont des tentes ou des duvets, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont livrées à elles-mêmes. Il y a quand même toujours encore beaucoup de gendarmes mobiles et de policiers sur place et on craint des nouvelles évacuations et il faut savoir que depuis mercredi il y a vraiment des véritables chasses à l'homme qui se passent à Calais où plusieurs migrants se font courser dans les rues. Donc en gros il y a aussi des militants qui ont été arrêtés, qui ont été mis dans des commissariats pour surtout pour intimidation. Il y a encore beaucoup de migrants qui sont dans des commissariats ou en centre de rétention. Et donc les informations continuent à arriver. Du coup, si toute personne qui peut contacter des collectifs locaux de soutien pour qu'ils appellent les centres de rétention, pour qu'ils aillent voir les gens, contacter des associations intervenant dans les centres de rétention pour qu'ils se mettent en lien avec France Terre d'Asile Calais et surtout donner aux personnes le numéro suivant. Donc le numéro c'est le 06 05 86 20 50, et ça ce numéro c'est le numéro de la Legal Team qui est mis en place pour les migrants ces dernières semaines. Donc voilà pour des nouvelles qui sont vraiment peu réjouissantes, qui sont très très peu traitées par la presse nationale. Je pense qu'on se rend pas compte du niveau de violence qu'il y a envers des personnes qui sont dites sans papier en France aujourd'hui. Vous pouvez un peu plus suivre ce qui se passe à Calais en ce moment sur un blog qui s'appelle Passeur avec un S d'hospitalité avec un S. wordpress.com. Et en tout cas, à Lyon, il y a une manif qui va s'organiser, pas ce samedi-là, mais samedi prochain à 14h, en réaction du coup aux expulsions récentes à Calais et plus largement aux politiques d'immigration en France et en Europe.
est toujours sur le 102.2 et on vient d'écouter Konono, Coulé Coulé.
Et maintenant, on reçoit des intermittents du coup en lutte qui organisent un spectacle sur la place Saint-Honnêt, un concert de soutien.
Qui réagit là tout de suite. Là. On n'est pas content.
On n'est pas content.
On n'est pas que des intermittents.
On n'est pas content. Ça n'est pas les intermittents, c'est le collectif unitaire 69 qui réunit des intérimaires, les chômeurs, les cadres, les travailleurs au CDD, les retraités et les intermittents du spectacle. Contre la réforme globale de l'assurance chômage qui
a été signée le 26 juin dernier par le gouvernement.
Et qui sera mise en application du coup
depuis
déjà mis en application
le 1er juillet.
Super, bonne nouvelle.
Et qui précarise tous les chômeurs et tous les travailleurs et qui brise
les
droits sociaux et la solidarité interprofessionnelle.
Et du coup, vous précisiez du coup que vous n'étiez pas que intermittent et que le collectif Unitaire 69 regroupait plus de choses. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce qu'est ce collectif et...
Tout d'abord, on précise parce que on tient à préciser que toutes les actions qui sont menées depuis maintenant 3 mois, enfin depuis mars et surtout depuis un mois, sont toujours imputées aux intermittents par les médias généralistes. Alors que toute la base du mouvement et toute la communication qu'on met en place est justement de préciser qu'on se bat pour tous et qu'on a une réunion de tous pour tous. Le problème, c'est que le gouvernement, appuyé par les médias, cherche à diviser le mouvement et à faire surtout en sorte qu'on n'arrive pas à se rassembler, donc communique uniquement sur les intermittents.
Du coup, ça rappelle un peu ce qui s'était passé avec la réforme des retraites, où le gouvernement mettait en avant la réforme de la SNCF pour essayer de diviser et faire que chacun tape un peu sur les autres.
Exactement.
Et là, c'est un peu la même stratégie qui est en place, quoi.
Oui. Et c'est pour ça que dernièrement, il y a eu des propositions faites par Valls, le Premier ministre Manuel Valls, de faire des efforts sur un problème sur le différé d'indemnisation pour les intermittents. Alors encore une fois, pour déplacer le problème et faire croire à la population que les intermittents se battent pour les intermittents et qu'on est des privilégiés qui se battent pour leurs privilèges, ce qui est complètement faux.
Et du coup, nous, on avait essayé de comprendre un petit peu le nouveau texte qui était sorti sur l'assurance chômage, et ça avait été un gros charabia de ce qu'on a pu lire. Et du coup, est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu ce que ça va changer dans les grandes lignes ? On a vu que ça augmentait la précarité, que ça allait réduire les cotisations, le temps de cotisation et le montant de l'aide. Est-ce que vous avez plus de renseignements sur le régime général ou même en particulier après sur le régime des intermittents ?
Alors,
moi je veux bien commencer par les intérimaires.
Vas-y.
Les intérimaires aussi, on n'en parle pas assez. C'est aussi une tranche qui a du mal à se mobiliser. Mais pour ce qui les concerne, ils vont perdre en moyenne 200 euros sur leur indemnisation mensuelle. C'est pareil, le nombre d'heures de référence qui avant était de 10 heures, on prenait en compte une référence de 10 heures, sera divisé par 2. Donc voilà. Sur le régime G, en fait, on va appliquer ce qu'on applique aujourd'hui aux intermittents. Donc il faudra un certain nombre d'heures pour ouvrir des droits. Sinon, les ouvertures tomberont dans des caisses, mais pas dans la poche du chômeur. Le délai également d'ouverture entre la fin de son contrat et l'ouverture de ses droits pourra être prolongé. Ça sera environ 170 jours ou 180 jours. Donc, ce qui représente à peu près 6 mois.
Sachant qu'à l'heure actuelle, c'est une soixantaine de jours, je crois.
Oui, 60 jours, oui, actuellement.
Voilà. Et il faut savoir qu'il y a une histoire sur les droits rechargeables qui sont présentés comme une avancée. J'ai quelqu'un qui travaille au Pôle emploi qui a bien compris ce qui se passait et qui m'a dit « mais c'est dramatique pour le régime général, il faut absolument que vous en parliez ». Le principe des droits rechargeables, pour prendre un exemple, est que quelqu'un qui travaille pendant qu'il est étudiant, il va travailler un petit taux dans un boulot assez pourri où il gagne que dalle. Prenons cet exemple, il travaille 2 ans comme ça, il accumule des droits sur ce travail. Il sort de ses études, il a la chance de trouver un vrai travail qui est rémunéré, disons, autour de 2000 euros par mois, un peu moins 1500. Voilà. Il cumule des droits là-dessus. Ensuite, après ce travail, il trouve le vrai travail qu'il cherchait. Il est peut-être à un bon salaire, 2500 peut-être. Il tombe au chômage. Les droits qu'il va percevoir sont d'abord les droits qu'il a accumulés pendant qu'il était dans son petit boulot d'étudiant. Donc il va être indemnisé absolument pas au niveau de son niveau de vie. Il va devoir épuiser ces droits-là, donc avoir une indemnité minable, jusqu'à toucher les droits de son deuxième emploi. Il va devoir épuiser ces droits-là jusqu'à toucher les droits de son dernier emploi, donc les droits qui sont équivalents au niveau de vie qu'il avait quand il est tombé au chômage.
Ok, donc ça reprend tout en arrière et il n'y a plus d'homogénéisation de l'ensemble des droits comme il y avait actuellement.
Pas du tout, et il n'y a pas de calcul global de qu'est-ce qu'on a cotisé et qu'est-ce qu'on touche. Donc même cette histoire de capitalisation et que chaque chômeur touchera ce qu'il a cotisé est faux. Voilà.
Mais l'usine à gaz est volontaire, hein, qu'on n'y comprenne rien, c'est encore une tactique. Comment défendre ses propres intérêts quand on ne les comprend pas?
Et c'est pour ça que les intermittents, qui étaient plus au fait de se plonger dans les textes depuis 2003, se sont plongés dans leurs propres textes, ont commencé à soulever les pages et voir ce qui se passait pour les autres, et ont découvert le poteau rose, et se sont dit, mais c'est dramatique pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est ceux qui ont initié le mouvement. Maintenant, le mouvement est beaucoup plus vaste.
Ok. Et du coup, tu disais que tu avais rencontré un conseiller Pôle emploi, et du coup, cette usine à gaz aussi, pour eux, ça doit être quelque chose qui va arriver avec un peu de terreur et qui va encore ralentir les allocations. Il t'en a parlé de ça?
Oui, et eux sont surtout dans un gros problème, c'est-à-dire que les conseillers Pôle emploi sont en contact des gens, comprennent les problèmes. Les directions de Pôle emploi sont dans l'application des mesures et dans la culpabilisation des chômeurs. Donc en plus, il y a un vrai problème au sein des pôles emploi, entre les conseillers qui disent bon bah on peut vous faire passer des informations mais on n'a pas le droit, et leur direction qui leur mettent la pression.
Sachant que les conseillers de Pôle emploi aussi ont une formation très très rapide, genre je crois que c'est un ou deux jours, donc s'ils veulent vraiment comprendre, il faut qu'eux-mêmes se plongent dans les textes, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous et de toutes. Et que d'ailleurs, à Pôle emploi, il y a aussi des contrats à durée déterminée, donc ce sont aussi potentiellement des futurs chômeurs.
Ok, du coup, enfin, on va imaginer aussi que ça va encore augmenter les tensions dans les pôles emploi, et c'est les conseillers, les chômeurs, les gens qui vont venir chercher les allocations, qui vont supporter tout ça, quoi.
Bah, on se rappelle le bordel que ça avait été quand il y avait eu la fusion ANPE et ACEDIC. Ouais. Bah, là, on remet la même chose. Donc là aussi, c'est pareil. Le temps que tout le monde comprenne, en effet, ce ne soit pas formé, parce que un ou deux jours de formation, là, quand on voit que des personnes militent depuis des mois et que même pour nous, c'est dur de l'expliquer. Donc on peut imaginer ce que ça va donner.
Ok. Et du coup, plus sur ce qui se passe, le côté festif de tout ça, donc à Saint-Clonay, vous pouvez nous en dire plus?
Ouais. On fait la fête. C'est trop bien. Et ben oui, bon, là, il s'agit d'un concert de soutien. Les artistes qui interviennent gratuitement. Toutes les personnes qui sont sur ce concert sont bénévoles, ne touchent rien du tout. C'est une initiative du collectif Unitaire 69 pour faire parler de nous, déjà. Et tous les fonds qui seront récoltés vont servir à faire une caisse de solidarité et pour payer les frais qu'on peut avoir au sein du collectif, peut-être engager des juristes, faire des remboursements de frais quand on se déplace, quand on va en coordination nationale, etc. Et puis ensuite, on va voter en AG pour que cet argent soit donné à diverses associations qui peuvent être les cheminots, les grévistes en grève de Montpellier Danse et d'autres, les spectacles en lutte à Fourvière, etc., etc.
Parce que du coup, le collectif 69, il est coordonné avec les autres collectifs au niveau national.
Alors ben là, on revient de deux jours de coordination nationale qui ont eu lieu les 2 et 3 juillet à Avignon, qui a regroupé 24 CIP, donc collectifs d'intermittents et précaires, c'est ça que ça veut dire. Et on a vu que ben voilà, ça se bougeait partout en France, que partout des actions étaient menées. Et ensemble, on essaye de faire en sorte que la lutte continue. Alors, tous les médias et le grand public se focalisent beaucoup sur les festivals, notamment sur Avignon. Là, en plus, la coordination avait lieu à Avignon. Mais ce qu'on essaye de faire passer, c'est que la lutte va être longue et que ça va se prolonger bien au-delà de l'été. Et que ça va vraiment se jouer à la rentrée, en fait, septembre, octobre. Il risque en plus d'y avoir des recalculs sur les indemnités... des gens qui auront
fait passer leur dossier pendant l'été, il risque d'y avoir des recalculs et les gens vont se retrouver avec des trop perçus. Enfin, ça risque d'être un peu compliqué. Et du coup, c'est là qu'il faudra pas lâcher, quoi. Voilà.
Et du coup, le calendrier de la lutte, là, il y a des choses prévues sur Lyon ou en France dans les
tous les jours. Ouais, tous les jours. Alors, il y a des appels à la grève, bien sûr. Aujourd'hui, c'est grève nationale. Mm-hmm. Il y a un gros appel à la grève le 7 juillet, donc lundi. Le 12 juillet, il va y avoir des actions qui seront à prévoir les 10, les 17 et 24 juillet, qui seront les prochaines tables rondes de concertation avec le gouvernement. Mm-hmm. On en saura plus dans les prochains jours. Nous, on organise aussi un concert de soutien à Fourvière le 19 juillet. C'est en cours, donc on n'en dit pas plus pour le moment, mais ça va être un bel événement. Et puis, voilà. Après, il y a une prochaine coordination nationale qui aura lieu les 31 août, 1er septembre et 2 septembre à Dijon. Voilà.
Parce que... On a choisi cette occasion à Dijon parce que c'est l'université d'été du MEDEF qui sont ceux qui ont fait passer, qui ont proposé ces accords, qui les ont imposés et qui sont passés sans discussion. Donc c'est le principal adversaire dans cette histoire.
Et en plus, il y a des morceaux de Rebsamen dedans.
Voilà, il y a des morceaux de Rebsamen dedans. Et il faut savoir que voilà, ces accords proposés par le MEDEF ont été agréés par le gouvernement sans même étude des propositions d'autres accords établis par les CIP qui ont été travaillés depuis 2003, qui proposent autant d'économies avec moins d'injustice sociale. Donc leur communication vise à dire qu'ils cherchent à faire des économies, mais étant donné qu'on a des propositions qui font autant d'économies, on se rend compte que la proposition est idéologique. Et leur volonté est de casser les droits sociaux, de casser la protection sociale pour aller vers un non-droit du travail de type anglo-saxon, comme il y a en Angleterre, ouais, partout,
en Allemagne aussi.
Et toutes les infos sur les prochains mouvements, les prochaines luttes, les rendez-vous, on peut les trouver sur un site internet ou quelque chose ?
Oui, on peut les trouver sur le site du collectif Unitaire 69. Donc non seulement on y trouve le calendrier quasi journalier des actions, parce qu'on essaye d'avoir une mobilisation de terrain tous les jours. Ce qui est important, c'est d'aller à la rencontre des personnes et de leur donner l'information. Parce qu'on est vraiment, enfin, comme sur d'autres sujets, on est sur une guerre des médias. Et je crois que la première manière de militer, c'est d'abord de s'informer soi-même, de s'émanciper de ça, justement, du bourrage de crâne du gouvernement et des médias. Donc, en effet, sur le site du collectif Unitaire 69, on trouve ça. C'est aussi un peu sur la question de l'événement festif. C'est pas des intermittents qui font la fête, c'est des personnes, c'est un collectif unitaire qui a envie d'informer, justement, d'aller à la rencontre des gens et leur, contredire ce que veut faire passer le gouvernement, les intermittents méchants. Parce que là, ne serait-ce qu'au temps de la table,
il y a toi qui a même pas.
Il y a moi, oui.
Juste, ouais, voilà.
Vous êtes deux. Il y a une intermittente.
Moi je ne suis plus intermittent depuis 5 mois, donc je ne peux pas me considérer comme intermittent.
Il faut venir nous rencontrer, c'est pareil, quand les gens nous croisent dans la rue, on est facilement reconnaissable, parce qu'on ne quitte pas trop nos t-shirts noirs et nos croix blanches. Il faut venir nous rencontrer.
Ok, merci beaucoup d'être venu et puis bonne chance pour la suite.
Vous avez aussi un site qui coordonne à peu près toutes les actions nationales, qui est le site de la CIP IDF, qui est la CIP Île-de-France, qui est www.cip-idf.org. Là, vous aurez toutes les informations. Si vous n'êtes pas de la région, vous avez accès à toutes les informations.
Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
va finir ce canular fou avec un petit tour en Afrique du Sud, où les mineurs de platine viennent de mener la plus longue grève de l'histoire du pays et d'obtenir leurs revendications. Donc depuis 5 mois, c'est 70 000 ouvriers qui se sont battus et qui ont fait grève pour obtenir un salaire minimum. Donc c'est un conflit qui remonte bien au-delà, puisque cette revendication d'un salaire de 12 500 randes, qui correspond à environ à 800 euros, elle date de 2012. Le salaire aujourd'hui est de 5 000, donc ils se battent pour une augmentation vraiment très large de ce salaire, qui correspond au doublement. Et c'est déjà dans le cadre de ces conflits et de ces revendications qu'en 2012, 34 mineurs avaient été tués par la police à Marikana. Alors, à la tête de ce conflit, il y a un jeune syndicat qui s'appelle la MCU, qui est né d'une scission avec le syndicat historique des mineurs, le NUM, qui est à l'avant-garde du conflit. Et donc, ils ont réussi à obtenir, en se battant, donc les mineurs, leur revendication d'un salaire à 12 500 NUM pour dans 3 ans, avec une augmentation progressive dans 2 mois, puis une dans 1 an, et encore une autre dans 1 an. Et donc, c'est également un conflit qui aura des suites dans la société sud-africaine, puisque dans la foulée, c'est les métallurgistes qui, suite à cette victoire, viennent de se mettre en grève et réclament, eux, à leur tour, des augmentations de salaire de 20%. Et par ailleurs, ce sera également un point important dans la recomposition politique à la gauche de l'ANC, qui est le parti actuellement au pouvoir et du président. Et c'est l'initiation de tout un processus pour cette recomposition, pour une gauche plus radicale.
Ok, on va finir par un minuscule agenda. Alors, c'était juste pour dire que le vendredi 4 juillet à 20h30, et le samedi 5 également, il y a plein de choses. Place Satonnet, du coup, c'est... Bon, on ne sait pas exactement, mais ça s'appelle l'information aimable pochade familiale, dans lequel Fiston a la particularité d'être mort. Enfin, bon, bref, il y a plein de spectacles comme ça dès ce soir, à prix libre par les intermittents en lutte. Voilà. Et ben, c'est fini pour le Canu Info, et on va vous quitter avec une petite musique. C'était Konoko et on passe à l'émission Noise Pollution.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parentales.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Noise Pollution.
Il s'agit de textes qui incitent l'auditeur à se suicider, à tirer, à appuyer sur la gâchette. Jusqu'où on peut aller sous le bénéfice du folklore.
On peut habituellement reconnaître les fans de heavy metal à ce qu'ils portent.
Couleur noire est essentielle.
J'ai rencontré des gens qui écoutaient du metal. Cette violence tout de suite, cette violence, c'est coup qui tape dans les oreilles tout de suite, ça m'a plu. Et je suis rentré dedans tout de suite en fait. C'est comme il y a des onctions du Saint-Esprit, moi j'ai reçu une onction métal d'un seul coup.
Noise Pollution.